Chapitre 15. Le chapitre 15 des actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 15 des actes est le verdict de salut le plus important de l'histoire de l'Église. Ce chapitre n'est pas simplement un compte-rendu de l'ajustement des méthodes missionnaires ou d'une réunion administrative, mais un lieu déclarant le verdict public final sur ce par quoi une personne est justifiée. La Bible présente une réponse claire à la question fondamentale de savoir si des conditions humaines peuvent être ajoutées au salut déjà accompli par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par la croix. Actes, chapitre 15, versets 1 à 5. Soulevez le problème, qu'en est-il de la tentative d'ajouter des conditions humaines à l'achèvement de l'Évangile? Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns, du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Quelques hommes sont descendus de Judée à l'église d'Antioche et ont enseigné les frères, affirmant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Et un grand débat et une vive discussion ont éclaté. Cette affirmation était la logique selon laquelle la circoncision et la loi, c'est-à-dire les actes humains, doivent être ajoutés à la foi de croire en Jésus. Ce n'était pas une petite différence doctrinale, mais une tentative de nier fondamentalement l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui déclare que le transfert des péchés a déjà été achevé par le baptême de Jésus et que le péché a été jugé une fois pour toutes sur la croix. Actes, chapitre 15, versets 6 à 11, le témoignage de Pierre. Quel est le verdict du Saint-Esprit qui est descendu sur eux lorsqu'ils ont cru à la parole? Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent de la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples, un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que, lorsque les apôtres, et les anciens se réunissent pour discuter de cette affaire, Pierre leur rappelle la décision de Dieu. Ils témoignent, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, non pas avant d'avoir reçu la circoncision ou après avoir observé la loi, mais seulement lorsqu'ils ont cru à la parole de Dieu. Pierre affirme, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, déclarant de ne pas ajouter de conditions humaines au salut que Dieu a déjà achevé ?» Actes, chapitre 15, verset 12, le silence apostolique, le verdict du Saint-Esprit déjà rendu doit être accepté. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Toute l'assemblée garde le silence et écoute Barnabas et Paul raconter les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Ce silence n'était pas parce que d'autres rapports de miracles étaient nécessaires, mais parce que le fait même que le Saint-Esprit soit déjà descendu sur les païens était le verdict confirmé de Dieu. Au sein de l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela montre que la venue du Saint-Esprit n'est pas une condition pour obtenir le salut, mais un résultat naturel qui suit lorsque l'évangile est cru. Actes, chapitre 15, versets 13 à 21, la déclaration de Jacques concernant l'ordre du salut pour les païens prophétisés dans la Bible. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. » Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Jacques cite le livre d'Amos et délivre la parole disant « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. » C'est une déclaration selon laquelle les païens ne sont pas sauvés après être devenus juifs, mais sont sauvés exactement tels qu'ils sont dans leur état de païen. Cela a confirmé que la norme du salut ne réside pas dans la lignée ou les règles, mais uniquement dans le nom de Dieu lui-même, accompli par le baptême de Jésus et la croix. Actes, chapitre 15, versets 22 à 29, le cœur du document officiel. Quelle est la puissance de l'évangile du salut de la grâce qui n'impose aucun fardeau? Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, « Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. L'Église de Jérusalem choisit Jude, appelé Barsabbas et Silas, et envoie une lettre officielle à Antioche. Le cœur de ce document est la déclaration, car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est une proclamation évangélique qui a complètement supprimé les conditions pour le salut. L'exhortation mentionnée ici de s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité n'était pas une condition ou un dispositif pour obtenir le salut, mais simplement la considération pratique minimale pour que les Juifs et les païens puissent fraterniser au sein d'une même communauté. Actes, chapitre 15, versets 30 à 35, résultat concernant le véritable réconfort et la joie donnée par l'Évangile accompli, Eudon, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Les membres de l'église d'Antioche lisent la lettre de Jérusalem et se réjouissent de ses paroles d'encouragement. Cette joie n'était pas simplement due au fait que les règles étaient réduites, mais parce qu'ils avaient reçu la confirmation officielle de l'église, mère de Jérusalem, de l'évangile, selon lequel leur péché avait déjà pris fin par le baptême de Jésus et la croix. L'Évangile ne lie pas les gens, mais donne un véritable repos et un réconfort à l'âme en proclamant un fait accompli. Actes, chapitre 15, versets 36 à 41, la séparation de Paul et Barnabas, la souveraineté de Dieu envers la propagation de l'Évangile avançant au-delà de la personnalité humaine. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Paul et Barnabas ont un vif dissentiment sur la question d'emmener Jean-Marc et se séparent l'un de l'autre. Cependant, même au milieu de ce conflit, la Bible rapporte « Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » C'est la preuve que l'Évangile ne dépend pas du caractère personnel ou des relations des apôtres. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit avance sans s'arrêter, suivant le plan souverain de Dieu, même au-dessus des conflits humains. En conclusion, le chapitre 15 des Actes confirme finalement que le salut a déjà été accompli par le baptême de Jésus et la croix. Le Saint-Esprit n'est pas une récompense pour avoir observé la loi, mais vient lorsque l'on croit à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et l'Église n'a aucune autorité pour ajouter des conditions humaines au salut. Au moment où quoi que ce soit est ajouté à la grâce, ce n'est plus l'Évangile. Le chapitre 15 des Actes gouverne l'Église aujourd'hui comme la déclaration finale de salut confirmée par le Saint-Esprit, selon laquelle les péchés ont pris fin par le baptême de Jésus et le jugement a pris fin par la croix. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 15 des Actes, versets 1 à 41, est le premier tournant théologique très important dans l'histoire de l'Église. Et elle consigne la décision sur ce qui accomplit le salut, allant simplement au-delà de la question du fonctionnement organisationnel. Du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous croyons et prêchons, le Concile de Jérusalem n'était pas un lieu de compromis avec les traditions humaines, mais un lieu de victoire qui a défendu jusqu'à la fin la pureté de l'Évangile que Dieu avait déjà accompli. Le conflit a commencé lorsque certains hommes sont descendus de Judée à l'église d'Antioche et ont enseigné « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Cette affirmation ressemblait extérieurement à un zèle pieux, mais essentiellement, ce n'était rien de plus qu'une tentative d'ajouter de force des conditions humaines au salut déjà accompli. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit proclame que le salut n'est pas un processus, mais un achèvement, et enseigne que le baptême d'eau par lequel Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde au fleuve Jourdain, le mérite du sang par lequel il a reçu le jugement sur la croix, et l'œuvre du Saint-Esprit venant dans le cœur de ceux qui croient cela son tout. Lorsque les apôtres et les anciens se sont réunis pour examiner cette affaire, Pierre a rappelé l'événement qui s'est produit dans la maison de Corneille et a témoigné « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Pierre a réprimandé « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» et a proclamé « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. La grâce n'est pas une émotion humaine, mais la réalité indéniable du salut que Dieu a déjà accompli par le ministère de Jésus-Christ. » Ensuite, Barnabas et Paul ont fait un rapport concernant les signes et les prodiges que Dieu avait fait parmi les païens par leur intermédiaire, et toute la multitude a écouté cela en silence. Leur rapport a finalement confirmé que le même Saint-Esprit est descendu sur les lieux où le même évangile a été prêché, et que la norme de salut que Dieu utilise est unique. Le Saint-Esprit témoigne toujours uniquement de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est le ministère accompli de Jésus-Christ, et ne reconnaît aucune condition comportementale des humains comme base du salut. Jacques a révélé que les paroles des prophètes s'accordent avec cette situation et a rendu le jugement qu'il est juste de leur écrire de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'était une déclaration pour avertir ceux qui essayaient d'ajouter d'autres conditions au salut et pour établir clairement la voie du salut, indiquant clairement que les actions ne sont pas la base du salut, mais l'ordre de vie que ceux qui sont sauvés doivent garder. L'Église de Jérusalem a envoyé une lettre contenant la décision. car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Les saints de l'église d'Antioche ont lu la lettre et se sont réjouis de ces paroles d'encouragement, parce que l'évangile n'ajoutait pas un joug humain, mais libérait véritablement les gens. Bien que plus tard, Paul et Barnabas aient eu un vif dissentiment sur la question d'emmener Jean appelé Marc et se soient séparés l'un de l'autre, la vérité de l'évangile n'a pas été ébranlée. Et Paul a choisi Silas et est parti, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, et a parcouru la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Même si les relations humaines peuvent changer selon la situation, l'évangile de l'eau et de l'esprit établi par Dieu n'est jamais ébranlé et avance. En conclusion, le chapitre 15 des Actes nous présente aujourd'hui la norme stricte de ne rien ajouter au salut. Le fait que Jésus-Christ a été baptisé par Jean au fleuve Jourdain pour que les péchés du monde lui soient transmis, a reçu le jugement du péché sur la croix, et que le Saint-Esprit, en rend témoignage, rend notre salut parfaitement complet, sans rien de plus à ajouter. Les actions ne sont pas la condition du salut, mais seulement le résultat. Et parce que cet évangile de l'eau et de l'esprit est parfait, l'Église doit défendre résolument la vérité, et les saints doivent y jouir d'une véritable liberté. Questions et réponses sur le chapitre 15 des Actes. Première. Une personne reçoit-elle l'élimination des péchés en croyant aux doctrines théologiques du christianisme ? Ou reçoit-elle l'élimination des péchés dans son cœur par la foi, croyant au baptême de Jésus et au sang de la croix dont parle la Bible ? Le cœur de cette question réside dans le fait de savoir si le salut vient d'un accord intellectuel ou de la foi croyante au ministère rédempteur de Jésus-Christ. Pour énoncer la conclusion d'abord, une personne ne reçoit pas l'élimination des péchés simplement en connaissant un système de doctrine théologique, mais reçoit l'élimination des péchés par la foi croyant dans le cœur au ministère rédempteur de Jésus dont témoigne la Bible. Les doctrines théologiques sont des outils pour organiser et expliquer la Bible. Les doctrines jouent le rôle de systématiser la vérité, mais elles ne deviennent pas elles-mêmes la puissance du salut. On peut comprendre intellectuellement et être d'accord avec les doctrines, mais cela ne signifie pas que le problème du péché dans le cœur a été résolu. La foi dont parle la Bible n'est pas la simple acceptation d'informations, mais une confiance qui s'appuie sur le ministère de salut de Dieu en se l'appliquant à soi-même. La Bible témoigne que l'élimination des péchés a été accomplie par le ministère de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus et sa mort sur la croix sont proclamés comme des événements liés à la résolution du problème du péché. La croix est le lieu du jugement pour le péché, et sa mort n'est pas un simple martyre, mais porte le sens d'une expiation par substitution. Par conséquent, le salut est lié à la foi qui accepte et s'appuie sur cet événement rédempteur dans le cœur. La chose importante est ce qu'il faut croire. Ce n'est pas simplement au niveau de « je crois à la doctrine chrétienne », mais le cœur est de savoir si l'on a confiance dans le fait que le ministère de Jésus a résolu mes péchés. La Bible dit qu'une personne est justifiée non par les œuvres, mais par la foi. L'objet de cette foi n'est pas la détermination ou le zèle humain, mais le salut que Dieu a accompli en Christ. Par conséquent, l'élimination des péchés ne vient pas de l'acte intellectuel de croire à la doctrine elle-même, mais vient de la foi croyant au ministère rédempteur de Jésus-Christ dont témoigne la Bible. Les doctrines peuvent être des explications qui aident cette foi, mais le fondement du salut réside uniquement dans l'événement du salut accompli par Dieu et la foi qui s'y appuie. Deuxième, dans le chapitre 15 des Actes, il est apparu des gens qui disaient que si l'on n'est pas circoncis selon la loi de Moïse, on ne peut pas être sauvé. Est-ce vraiment ainsi? Et si nous ne croyons pas aux doctrines dont parle la théologie au XXIe siècle, ne recevons-nous pas le salut? Dans le chapitre 15 des Actes, certaines personnes ont affirmé « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Ce n'était pas une simple dispute culturelle, mais une question essentielle concernant ce qu'est le fondement du salut. Ils n'ont pas complètement renié Jésus, mais ont dit que tout en croyant en Jésus, les œuvres de la loi devaient être ajoutées pour que le salut soit complet. Cependant, les apôtres et les anciens ont clairement déclaré « Une personne n'est pas sauvée par le joug de la loi ». Mais est sauvé par la grâce du Seigneur Jésus. En fin de compte, la circoncision n'était pas une condition pour le salut, mais simplement une marque des Juifs. Le cœur de ce que cet événement montre est ceci. C'est une question de savoir ce qui est ajouté au salut. si l'on ajoute une action ou un rituel au salut de Jésus-Christ et que l'on dit « vous devez faire cela aussi pour que le salut soit accompli », c'est changer la structure de l'évangile. Le chapitre 15 des Actes rejette clairement les tentatives d'ajouter des conditions humaines à l'évangile. Ensuite se pose la question de savoir si l'on ne peut pas recevoir le salut si l'on ne croit pas aux doctrines dont parle la théologie au XXIe siècle. Ici aussi, une distinction est nécessaire. La doctrine est un système explicatif qui organise les enseignements de la Bible. Une doctrine correcte joue un rôle important pour aider à comprendre clairement l'évangile. Cependant, le salut n'est pas donné seulement lorsque l'on comprend parfaitement et que l'on est d'accord avec l'ensemble du système doctrinal. Le fondement du salut n'est pas une compréhension précise de la doctrine, mais la foi croyante au ministère rédempteur de Jésus-Christ. Bien sûr, les enseignements qui déforment le cœur de l'évangile deviennent un problème. Par exemple, si l'on renie le salut de Christ ou si l'on établit le mérite humain comme une condition pour le salut, c'est un chemin différent de l'évangile. Cependant, ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas tous les détails théologiques que le salut devient invalide. Les saints de l'Église primitive n'ont pas non plus appris la théologie systématique, mais ont reçu le salut en croyant à l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En conclusion, la dispute sur la circoncision dans le chapitre 15 des Actes était une question de savoir ce qu'il fallait ajouter au salut. Les apôtres ont déclaré que rien ne pouvait être ajouté. Il en va de même aujourd'hui. Aucune tradition, aucun rituel, aucun système théologique, ni aucun accord intellectuel ne peut devenir une condition supplémentaire pour le salut. Le salut est reçu uniquement par la grâce de Dieu, par la foi croyant au ministère de Jésus-Christ. La doctrine peut être un outil pour expliquer et protéger cet évangile, mais elle n'est pas le fondement du salut lui-même. Troisième, l'évangile auquel Pierre croit est l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui croit au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et au sang de la croix. Par conséquent, lorsque Pierre a témoigné de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui ont cru ont reçu le Saint-Esprit comme un don. La question est de savoir s'il est correct de penser qu'une telle foi est la foi qui croit à l'évangile dont parle la Bible. Explication. Le cœur de cette affirmation réside dans la manière de comprendre le contenu de l'évangile que Pierre a prêché et l'événement du Saint-Esprit descendant sur ceux qui ont cru à cet évangile. En regardant la Bible, Pierre a témoigné de l'ensemble du ministère de Jésus-Christ. Il n'a pas séparé la vie, la mort et la résurrection de Jésus, mais a proclamé l'événement du salut que Dieu a accompli par Christ. Dans son sermon de la Pentecôte, il a proclamé en se centrant sur la mort sur la croix, où Jésus a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a reçu le jugement du péché. Et sur sa résurrection. Et il a dit que lorsque ceux qui ont eu le cœur transpercé en entendant cette parole se repentent et croient au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit comme un don. La foi dont parle la Bible n'est pas un simple accord émotionnel, mais une confiance qui accepte le fait du salut que Dieu a accompli en Christ. Le ministère de Jésus est compris dans le flux des événements rédempteurs menant au baptême, au ministère public, à la croix et à la résurrection. Pierre a témoigné que l'événement n'était pas une tragédie accidentelle, mais le salut accompli dans le plan de Dieu. Par conséquent, la raison pour laquelle les gens ont reçu le Saint-Esprit n'était pas parce qu'ils ont ajouté un rituel, mais parce qu'ils ont accepté le ministère de salut de Christ par la foi. La structure de l'évangile répétée dans les Actes est claire. Lorsque les apôtres ont témoigné de Jésus-Christ et que les gens ont cru à cette parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Cela montre que le Saint-Esprit n'est pas donné comme une récompense pour le mérite humain ou l'observance de la loi, mais est le don de Dieu donné à ceux qui croient à l'Évangile. Le Saint-Esprit n'apparaît pas comme une condition pour le salut, mais comme une marque de scellement et de confirmation donnée à ceux qui croient en Christ. Par conséquent, la foi dont parle la Bible est une foi qui s'appuie entièrement sur le ministère rédempteur de Jésus-Christ. Cette foi n'ajoute pas à la justice humaine, mais accepte la justice que Dieu a accomplie. Le don du Saint-Esprit est donné sur une telle foi. En fin de compte, le centre ne réside pas dans le zèle humain, mais dans la confiance au salut que Dieu a accompli en Christ. Quatrième, ceux qui étaient en dehors de Christ peuvent-ils également recevoir l'élimination des péchés dans leur cœur et recevoir le Saint-Esprit comme un don s'ils croient à l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Le centre de cette question est le problème de savoir si même une personne qui était en dehors de Christ peut réellement recevoir l'élimination des péchés et le Saint-Esprit si elle croit à l'Évangile. En regardant le flux de la Bible, la réponse est claire. Le salut n'est pas seulement pour les personnes qui étaient dans une nation ou un contexte religieux spécifique, mais est ouvert à quiconque croit à l'Évangile. En regardant les actes, non seulement les Juifs, mais aussi les Samaritains, les païens et des personnes comme le centenier romain Corneille ont fait l'expérience de l'élimination des péchés et de la venue du Saint-Esprit lorsqu'ils ont entendu et cru à l'Évangile. Ils n'étaient d'où pas ceux qui étaient auparavant sous la loi, ni des personnes se tenant au centre de l'Alliance. Cependant, lorsqu'ils ont entendu et cru au ministère rédempteur de Jésus-Christ, Dieu a donné le Saint-Esprit sans discrimination. Cela montre que le salut n'est pas fondé sur la lignée ou la carrière religieuse. La Bible dit que par nature, tous les hommes sont sous le péché et naissent dans un état d'être en dehors de Christ. Par conséquent, le fait même d'avoir été en dehors de Christ ne devient pas une condition qui bloque la possibilité du salut. Au contraire, l'Évangile est proclamé exactement vers de telles personnes. Il témoigne que le ministère de Jésus-Christ est un événement de salut qui a déjà été accompli, et que quiconque croit à cet événement est justifié. De plus, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un donné comme une récompense pour le mérite humain ou la qualification religieuse, mais est le don de Dieu donné à ceux qui croient à l'Évangile. Les apôtres ont prêché l'Évangile, et le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui ont cru à cette parole. Cela montre que le Saint-Esprit n'est pas la propriété exclusive d'un groupe spécifique, mais est lié à la foi qui croit en Christ. Par conséquent, à la question de savoir si même une personne qui était en dehors de Christ peut recevoir l'élimination des péchés et recevoir le Saint-Esprit comme un don si elle croit à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le témoignage de la Bible dit oui. Le cœur n'est pas la position passée, mais la foi présente. Le salut est fondé non pas sur le contexte humain, mais sur la foi qui a confiance dans le ministère rédempteur de Jésus-Christ.